France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Christine Anger, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique. Ce matin, c'est Paul Guigues. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Le président Joe Biden, dont le mandat s'achève dans quelques jours, a défendu cette semaine son bilan en matière de politique étrangère. Il estime laisser en héritage une Amérique plus forte et des alliances plus solides, mais son bilan révèle aussi une image ternie des États-Unis et de profondes divisions provoquées notamment par son soutien à Israël dans la guerre à Gaza. Les États-Unis dans le monde, Biden, à l'heure du bilan, nous en discuterons avec nos invités. Stephen Ekovic, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes professeur émérite de politique et d'histoire à l'Université américaine de Paris et vous serez rejoint par Maud Kessar, directrice du domaine Europe-Espace Transatlantique Russie de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Célian Massé.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération. Vous revenez du Soudan, où vous avez réalisé de nombreux reportages sur la guerre qui déchire et détruit le pays depuis presque 2 ans. Une guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023 les forces armées soudanaises du général Al-Burhan au RSF, les forces de soutien rapide des milices dissidentes dirigées par le général Hamdan Daglo, dit Emeti. Autrefois alliés contre le gouvernement de transition et les forces démocratiques, les deux groupes armés se livrent une guerre sans merci qui ravage le pays et épuise ses habitants. 18 800 personnes auraient été tuées selon l'ONU, tandis que près de 12 millions ont été déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et si l'issue est encore très incertaine, l'armée régulière a regagné du terrain ces derniers mois. Fin novembre, elle a repris la ville de Sinja, dans la région agricole de la Jezira, au sud-est de Khartoum. Et vous avez pu vous rendre, Célian Massé, à Sinja. Vous décrivez une ville fantôme plongée dans le noir. Combien de temps la ville est-elle restée sous l'occupation des RSF et à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui?
Sinja est restée presque 6 mois aux mains des RSF et c'est assez spectaculaire. Elle n'a pas été détruite par les combats parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement dans le cœur de la ville, enfin pas d'affrontement majeur. Par contre, les opérations de pillage menées par les RSF sur place ont été tellement intenses qu'il ne reste plus rien. C'est assez spectaculaire quand on arrive, il y a des dizaines, des centaines même de carcasses de voitures qui sont sur le bord des routes, les voitures sans moteur, sans roues, sans volant, parce que tout a été pillé. Les établissements que j'ai pu visiter, les hôpitaux, les administrations, sont pillés à un degré inimaginable. Il ne reste même plus les interrupteurs dans les bâtiments, il n'y a plus de câbles électriques, il n'y a plus rien, tout a été arraché. Tout a été pillé. Et ça dit quelque chose aussi de l'occupation des RSF, qui n'a pas vraiment essayé de mettre en place une administration très, très fonctionnelle et qui a plutôt été dans une démarche de prédation.
Les habitants qui ont vécu cette occupation vous parlent justement de cette obsession du pillage de la part des membres des RSF. Dans les exemples, vous citez aussi ce moteur d'un ascenseur dans un bâtiment qui a disparu. Où sont partis tous ces objets, tous ces biens?
Beaucoup ont été... Alors, c'est assez marrant, il y a des marchés qu'on appelle les marchés Emeti ou les marchés d'Agalo qu'on poussait un peu partout dans le Soudan, dans les zones occupées par les RSF. C'est des marchés de revente des objets volés. Et beaucoup sont au Darfour, mais il n'y a pas qu'au Darfour, dans toutes les grandes villes tenues par les RSF.
Et malgré cette destruction méthodique de la ville, de ses habitations, de ses infrastructures, vous dites que les habitants commencent à revenir à Sinja. Dans quelles conditions, dans quelles mesures?
Alors c'est surtout des hommes jeunes qui reviennent, souvent en éclaireur, avant de faire venir le reste de la famille. Mais la ville est presque trop grande pour son nombre d'habitants. C'est assez étonnant. C'est une ville un peu fantôme qui flotte comme ça. Pas d'électricité, donc plongée dans le noir à 18h. Il n'y a pas d'eau. Enfin, l'eau vient puiser directement dans le Nil ou dans les puits. Donc elle n'est pas toujours très, très, très potable. Et les gens sont prudents. Ils reviennent, ils voient s'il y a la sécurité. Ils regardent si les conditions minimales sont réunies pour faire venir les proches. Et tout le monde arrive, c'est des bus qui arrivent sur la place centrale. Il y a une grosse bouteille de Coca-Cola en plâtre, là, de cette espèce de rond-point. Il y a une cafétéria qui vient de rouvrir. C'est l'un des seuls établissements qui est rouvert. Et les gens découvrent, souvent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se précipitent vers leur maison pour voir ce qu'il en reste. Et il n'en reste souvent pas grand-chose.
Oui, et puis il y a des problèmes de ravitaillement importants puisque la ville est encore coupée des zones contrôlées par l'armée régulière. Vous expliquez que vous avez dû faire un voyage de 3 jours pour atteindre Sinjar, alors que normalement on a besoin d'une demi-journée en voiture pour la rejoindre. Et ça complique beaucoup, ça alimente les pénuries évidemment en tout.
Ouais, c'est aussi une des conséquences de cette guerre, c'est que le territoire est complètement morcelé. En effet, ça prenait une demi-journée le long du Nil pour descendre de Khartoum à Sinjar, qui doit être à 350 km. Mais maintenant, c'est en pleine zone RSF, donc il faut faire un détour de plus de 1000 km près de la frontière éthiopienne, érythréenne, à travers le désert, des pistes qui ont été tracées à travers champs pour rejoindre Sinjar. Et évidemment, ça a des conséquences sur l'approvisionnement de la ville.
Ce que vous avez essayé de comprendre, Célian Massé, à Sinjar, c'est aussi à quoi a ressemblé l'occupation des RSF durant 5 mois. Et beaucoup de personnes que vous interrogez qui ont vécu cette période-là parlent des violences arbitraires qu'ils ont subies. Il y a par exemple ce jeune homme, Hamza, dont le prénom a été modifié, qui était chauffagiste et qui a d'ailleurs survécu, grâce à ses compétences de chauffagiste, puisqu'on avait besoin de ses compétences. Mais malgré ça, il n'était pas à l'abri de faire une mauvaise rencontre avec un soldat qui aurait pris de la drogue, parce que c'est aussi beaucoup de choses, un témoignage qui revient souvent des miliciens qui sont sous l'emprise de drogue. Et donc, voilà, cette violence arbitraire qui était vraisemblablement omniprésente.
Oui, c'était, d'après tous les témoignages que j'ai pu avoir là-bas, c'était quand même un régime de terreur. Il y avait très peu d'hommes. Ce chauffagiste, c'est un peu une exception parce qu'il avait un rôle qui l'a un peu protégé. Il avait la capacité de réparer un générateur qui alimentait la seule pompe à eau de la ville. Donc, il était un peu protégé par ce statut-là parce que les occupants avaient eux-mêmes besoin d'eau, bien sûr. Mais sinon, très peu d'hommes étaient restés en ville par peur d'une mauvaise rencontre, d'un coup de sang d'un milicien qui peut mal finir. Et il restait peu d'habitants tout court. J'ai rencontré une femme, une volontaire, une bénévole qui tenait une pharmacie et qui a ouvert le seul centre de santé de Sinjar à l'époque. Sinjar, c'est une grande ville, hein, c'est une capitale régionale. Il n'y avait qu'un centre de santé minuscule de 3 pièces, complètement vétuste. Et elle a pu garder son centre ouvert uniquement parce qu'elle soignait aussi des miliciens. Donc pareil, c'était bien pratique pour les miliciens, ils l'ont laissé faire. Mais cette femme très courageuse et une dizaine de jeunes femmes qui l'aidaient voyaient défiler la population qui était régulièrement, qui venait se faire soigner parce qu'ils avaient reçu des coups de fouet, parce qu'ils avaient été battus, parce qu'ils avaient reçu une balle, des coups de crosse. Donc oui, c'était clairement un régime de terreur.
Et beaucoup de femmes qui venaient aussi dans ce centre et qui ont témoigné de violences sexuelles, également sur des enfants. C'est ce qu'elles vous racontent.
C'est aussi quelque chose qui a marqué toutes les zones où les RSF sont restés et où ont occupé le territoire. C'est qu'on a beaucoup de témoignages de violences sexuelles. Alors moi, comme journaliste masculin, qui était avec un fixeur et un traducteur homme aussi, c'est des témoignages qui sont compliqués à recueillir, mais par l'intermédiaire d'une personne comme ça qui était responsable du centre de santé, on a pu avoir des indices de ce qui s'était passé. Mais il y a évidemment, et comme toujours dans ces contextes-là, des difficultés de témoignage parce que c'est un stigmate social et familial terrible pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de venir témoigner.
Elle vous raconte qu'un jour, désespérée, elle sort dans la rue avec une petite pancarte sur laquelle elle a écrit « Stop, viol » et qu'elle se dirige vers les dirigeants des RSF. Et à ce moment-là, elle se dit que c'est pas grave si elle est tuée, elle est à bout. Et qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là?
Elle n'est pas tuée puisqu'elle est là pour me le raconter. Mais quand elle me le raconte, elle est en pleurs, évidemment. Et elle peut plus tenir, quoi. C'est sa manière de se révolter. C'est extrêmement courageux et peut-être inconscient, je sais pas, mais en tout cas, elle a ce courage de se lever et d'aller devant le QG du commandant des RSF pour dire que ses troupes doivent cesser. Et contre toute attente, elle est reçue par les RSF qui lui promettent que ses comportements seront punis à l'avenir. Je ne sais pas si les punitions ont été efficaces ou pas, mais effectivement, dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a eu des soldats violemment punis pour avoir commis des exactions.
Il faudra encore du temps, Célian Massé, pour mesurer l'ampleur des exactions commises par les RSF sur les territoires occupés. Il faut préciser que du côté de l'armée soudanaise dite régulière, il y a aussi des accusations d'exactions contre des civils, de frappes indiscriminées. Mais aujourd'hui, il est compliqué pour les journalistes d'accéder, voire impossible en fait, d'accéder aux zones, à l'autre camp. Et que vous êtes aussi sur surveillance de l'armée, enfin... accompagné ou encadré par l'armée et qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles il va falloir enquêter.
Ouais, c'est la complexité d'un reportage comme ça et c'est le vrai dans beaucoup de conflits armés. Mais là, par exemple, moi je suis arrivé à Port-Soudan, donc une ville où il y a le seul aéroport international du pays qui est encore en fonction, qui est un territoire contrôlé par l'armée régulière. Et je ne peux pas franchir la ligne de front et aller de l'autre côté. Donc c'est aussi, il faut être conscient de ça quand on raconte, c'est la partialité de ce que j'ai pu récolter sur le terrain, c'est que c'était uniquement dans les zones contrôlées par l'armée régulière. Mais on sait très bien que les exactions, elles sont des deux côtés. Il y a quelques jours, cette semaine, l'armée a repris une ville majeure de la Jezira, Wad Madani, et on sait que dans le sillage, il y a eu des exactions terribles. Il y a déjà des vidéos qui circulent, des représailles de vengeance, d'exécutions sommaires, de gens balancés par-dessus les ponts. Donc, et l'autre...
pour bien comprendre, de personnes qui ont été accusées de soutenir les RSF, c'est ça ?
Voilà, de collaboration avec les RSF. Et c'est des accusations très rapides. Des fois, sur une simple base ethnique, on se dit un tel ou un tel, il a dû collaborer ou il a dû soutenir l'occupant. Et donc, ça va très très vite.
Et d'ailleurs, vous avez entendu, recueilli aussi des propos de méfiance, voire d'hostilité sur des bases territoriales ou ethniques de la part de ceux qui commencent à revenir typiquement à Sinjar, qui ont vu leur maison occupée, souillée par les miliciens et qui disent ces gens-là, des propos un peu, voire racistes, ce sont des choses que vous avez entendues.
C'est un peu le tableau de fond sous-jacent de ce conflit-là. Je ne veux surtout pas dire, et à mon avis c'est une erreur d'avoir une lecture ethnique du conflit, mais par contre il y a un fond identitaire, et les RSF, pour leur grande majorité, sont originaires du Darfour, une région périphérique, lointaine, et là, à Sinja ou à Wad Madani, on est dans la vallée du Nil, avec les tribus arabes du Nil, et... Il y a toujours chez ces habitants de la vallée du Nil une sorte de mépris pas très dissimulé pour les Darfouris, pour les gens qui vivent dans le désert, et c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Ces occupants, ils sont pas civilisés, ils viennent du désert, etc. Et il y a ce fond de sauce un peu raciste qui est toujours présent à l'esprit.
Nourri par la colère des violences commises. Célian Massé, vous le disiez, l'armée gagne du terrain. Elle a repris plusieurs villes, notamment la capitale Wad Madani dans la région de la Jezira. Et vous expliquez aussi que l'armée régulière recrute à tour de bras et que les volontaires sont nombreux parmi les civils. On les appelle les Moustanfarines. Qui sont ces jeunes hommes ?
Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, depuis cet automne, l'armée régulière, qui était toujours sur le reculoir depuis le début de la guerre, commence à reconquérir du terrain, avec Sinja d'abord, en effet Wad Madani cette semaine, et puis même à Khartoum et Bahri, les villes autour de Khartoum, l'armée régulière progresse. Je pense que l'une des raisons, c'est ce recrutement massif, donc et tous azimuts. Les Moustanfarines, c'est des jeunes volontaires, qui sont motivés pour beaucoup parce que c'est des déplacés, par exemple, qui ont dû fuir leur région et qui cherchent une vengeance ou une reconquête de leur territoire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'alliances avec des groupes armés déjà constitués, parce que avant la guerre, il y avait déjà beaucoup de groupes armés au Soudan. Donc l'armée régulière s'appuie énormément, notamment au Darfour, sur des anciens rebelles qui combattaient l'armée dans les années 2000 et qui aujourd'hui se battent à leur côté contre les RSF, qui sont vus comme les héritiers des Janjaweed de l'époque de la guerre au Darfour. Mais il y a aussi, toujours dans ces nouvelles recrues de combattants civils, et c'est des bataillons très importants, il y a des miliciens islamistes qui sont qui étaient une composante de l'ancien régime de Béchir, qui avait un peu disparu, qui faisait profil bas évidemment depuis la chute d'Omar al-Béchir en 2019, et là qui, à la faveur de la guerre, se rachètent un peu une virginité, sont très ardents au combat, se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Puis enfin, il y a une dernière composante qui est peut-être pas la plus nombreuse, mais dont il fallait que je parle, c'est les révolutionnaires, ces jeunes révolutionnaires, ce qu'on appelle notamment les radibous, ceux qui étaient en première ligne contre le régime en 2019, puis contre le coup d'État de Burhan en 2021, certains aujourd'hui rejoignent les rangs de l'armée. Donc c'est dire le degré de renoncement. C'est des gens qui ont combattu contre l'armée en disant on veut plus de l'armée au pouvoir, et aujourd'hui qui se disent le danger des RSF est tellement grand que pour un moment, pour quelques mois, pour quelques années, on va quand même prendre les armes pour défendre le pays.
Et souvent, ces personnes, ce sont des gens qui n'ont aucune expérience militaire. Vous parlez par exemple de Majid, il a 23 ans, il était étudiant en commerce avant la guerre, et c'est un déplacé, il prend les armes. Ça semble une évidence pour lui. En même temps, quel degré de préparation a-t-il? Est-ce qu'il ne risque pas d'être envoyé au front en étant complètement impréparé? De quel entraînement peut-il bénéficier?
Alors malheureusement, oui, il risque d'être envoyé au front sans être extrêmement préparé. Le degré de préparation militaire, il est sommaire parce qu'il faut aller très vite. C'est une question de quantité aussi. Donc il y a 2 mois de formation physique et militaire de base, mais qui ne suffit pas pour être envoyé au front, évidemment. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, selon les aptitudes des combattants, on va leur donner une formation spécialisée. Certains dans l'infanterie, d'autres, je ne sais pas, dans les snipers, d'autres dans les drones, par exemple. Il va y avoir des spécialisations.
Célian Massé, vos reportages nous emmènent aussi dans la banlieue de Khartoum. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que la ville est encore très partagée, très divisée entre les deux factions. Et dans la partie contrôlée à Omdoumran par l'armée régulière, il faut rappeler que ce sont des villes, des quartiers, des rues qui sont absolument pratiquement complètement détruits, soit les bâtiments sont effondrés, soufflés par les explosions, criblés de balles. Et malgré tout cela, il y a des gens, des civils qui vivent et qui essaient de redonner un peu de normalité à la vie. Et je voulais notamment qu'on parle de Amar et de Karim, qui sont respectivement ingénieurs et électriciens et qui tentent de maintenir en vie le système électrique. Or, c'est très risqué parce que le système énergétique, c'est évidemment une cible.
Ouais, ça, c'est ce que j'ai voulu raconter, malgré le niveau de destruction qui est terrifiant à Khartoum, parce que ça fait 21 mois maintenant que la guerre fait rage sans discontinuer. Donc faut imaginer, il n'y a pas un bâtiment qui est, dans le vieil Omdourman, par exemple, qui a été un lieu de bataille, il n'y a pas un bâtiment qui est épargné, qui n'a pas des traces de balles. Les bâtiments sont des fois méconnaissables tellement ils sont sculptés par les rafales de balles, quoi. Malgré ça, ça, malheureusement, c'est assez classique comme destruction dans une guerre, hélas. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait de la vie qui continuait là-dedans, quoi. Et il y avait des gens qui luttaient au quotidien, de façon complètement invisible, d'ailleurs, c'est des héros invisibles pour moi, pour que la ville ne s'effondre pas totalement. Et parmi eux, il y a ces électriciens qui prennent des risques insensés. Alors, c'est des électriciens de la Compagnie Nationale d'Électricité, qui réparent les transformateurs, qui montent sur les poteaux électriques. Alors certains, de nuit, dans le noir, parce qu'ils savent que s'ils allument une lampe de poche, ils vont être la cible d'un sniper. Et ils continuent à faire ce travail pour éviter le blackout complet de la capitale.
Et puis il y a aussi ceux qui assurent les cantines populaires, il y en a beaucoup, et qui servent chaque jour des repas gratuitement aux familles de déplacés qui s'endettent eux-mêmes pour acheter la nourriture, pour assurer ces repas, ceux qui soignent malgré les infrastructures hospitalières quasiment détruites. On ne peut pas parler de tout le monde. Un dernier mot, Célian Massé. Oui.
Non, sur ces cantines populaires, c'est vraiment devenu un symbole de la résistance des Soudanais, les Taraya. C'est l'image de la résistance et de la solidarité des civils qui font ces distributions volontaires de nourriture. Ils sont très fiers de ça, c'est quelque chose d'indépendant qui n'est pas gouvernemental. Et voilà, c'est devenu l'un des symboles de cette solidarité, de cette résistance des civils soudanais.
Merci beaucoup, merci Célian Massé. Et puis je rappelle aussi pour les auditeurs que récemment, dans ce conflit dont on ne parle pas beaucoup, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a parlé le 8 janvier de génocide pour qualifier ce qui se passait au Soudan, notamment les exactions des RSF, que des sanctions ont été prises contre le général Emeti, mais aussi contre le général Burhan. On suivra la situation pour voir si c'est un tournant. Merci infiniment pour ces reportages au Soudan, dont certains sont encore à paraître. Ils sont en tout cas à lire sur Libération. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci. I think of all the people I keep beside me, the ones who came before and fell underneath, the ones I know who watch over. I think of all the people here on my journey, how they help bring out new parts of me. When I accept my duality, 'cause if I describe to formality, she'll lead me astray from my chosen path, from where it
Le chanteur et musicien américano-soudanais Sin Khan, qui raconte dans cette chanson sortie avant la guerre « Ya Soudan » en 2019 son attachement au Soudan, à sa famille et au peuple soudanais. Et à présent, direction les États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
We have strengthened partnerships all across the Americas.
Nous avons renforcé les partenariats à travers les Amériques, en défendant la démocratie, en ciblant la corruption, en nous attaquant à la migration, en augmentant la prospérité et en protégeant la forêt amazonienne qui capture des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère chaque année. Dans l'ensemble, nous avons raffermi la confiance des gens dans les États-Unis en tant que véritables partenaires. Aujourd'hui, je peux dire au peuple américain que nos adversaires sont plus faibles qu'ils ne l'étaient lorsque nous sommes entrés en fonction il y a 4 ans. Regardez la Russie. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait conquérir Kiev en quelques jours. Mais la vérité, c'est que depuis le début de cette guerre, je suis le seul à m'être tenu au centre de Kiev. Poutine, lui, ne l'a jamais fait. Réfléchissez-y.
Le président sortant Joe Biden qui exprimait ce lundi 13 janvier ses adieux au département d'État. À quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden a dressé le bilan de son action en matière de politique étrangère. Il s'est félicité d'avoir restauré le lien avec les alliés des États-Unis dans le monde, de laisser, je cite, une Amérique plus forte et d'avoir contrarié les plans de la Russie en Ukraine. Celui qui avait promis en 2021 de restaurer l'autorité morale des États-Unis aura pourtant aussi beaucoup déçu et divisé, notamment du fait de son soutien inconditionnel à la guerre menée par le gouvernement Netanyahou à Gaza, l'aide militaire apportée à l'Ukraine, trop tardive selon certains, trop massive pour d'autres. Quel est finalement le bilan de celui qui voulait mener une politique étrangère pour la classe moyenne américaine, qui avait fait du multilatéralisme, de l'état de droit et de la démocratie ses boussoles? Quel héritage laisse-t-il après 4 années au pouvoir? On en discute avec Steven Ekovitch et Maud Kessar et on démarre avec les édito de Marc Sémo.
Merci Mélanie. Alors, il y a un problème de méthode plus que de vision pour Joe Biden. Le fragile cessez-le-feu négocié pour Gaza est pour l'essentiel celui qui avait conçu son administration. Il était déjà mis sur la table depuis 6 mois. Mais s'il a pu finalement l'annoncer juste avant de quitter la Maison-Blanche, c'est en bonne part grâce à l'effet Trump et à la diplomatie quelque peu musclée du milliardaire et ses pressions sur Benjamin Netanyahou. Ça résume un peu toutes les limites de la présidence Biden en matière de politique internationale. Elle avait commencé d'ailleurs avec le catastrophique retrait d'Afghanistan. Les scènes de panique à l'aéroport de Kaboul rappelaient celles de la chute de Saïgon et c'était des scènes que les Américains ne voulaient jamais plus revoir. Il faut pourtant rendre justice à ce vieux routier de la guerre froide. En 40 ans à la tête, à la commission des affaires étrangères du Congrès, elle s'était rodée à toutes les subtilités de la grammaire de la dissuasion. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître, d'avoir saisi tout de suite l'enjeu de la guerre d'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Il a soutenu Kiev sans hésiter, tout de suite, mais avec beaucoup trop de prudence, hanté par le risque d'une escalade incontrôlée. Si toutes les armes finalement envoyées à l'Ukraine l'avaient été dès le début, l'Ukraine serait aujourd'hui en position de force pour de futures négociations. Mais elles sont arrivées toujours trop tard, en trop petite quantité, permettant à Kiev de tenir, mais pas de l'emporter. Après le premier mandat de Donald Trump, Joe Biden a voulu incarner le grand retour diplomatique d'une Amérique symbole de la liberté et de la démocratie dans le monde. Il a organisé à Washington, par exemple, 2 sommets des démocraties, mais cette rhétorique a tourné à vide face à la montée en puissance des nouveaux empires autoritaires, comme la Russie et la Chine. Indéfectible soutien d'Israël et de son droit à se défendre après les massacres pogromistes du 7 octobre, il n'a pas su ni voulu imposer à l'État hébreu de chercher une issue politique à une guerre gagnée militairement, mais perdue politiquement et médiatiquement. On espérait il y a 4 ans que la présidence Trump ne serait qu'une parenthèse. C'est la sienne finalement qu'il a été entre 2 mandats du milliardaire.
Merci beaucoup Marc Semo et je salue Maud Kessar qui nous a rejoint, qui est en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je voudrais qu'on commence avec cet auto-bilan qui a été fait par Joe Biden lui-même en début de semaine, dans lequel on a entendu beaucoup d'auto-satisfaits. Comment est-ce que vous en avez perçu le discours lui-même ou les échos? Est-ce que vous partagez cette impression qu'il n'a pas concédé beaucoup d'erreurs dans la rétrospective qu'il a fait lui-même de ces 4 dernières années, Maud Kessar?
En effet, ce qui est frappant dans le discours de lundi au département d'État de Joe Biden, c'est sans doute cette idée du déni. Et tout d'abord, comme le rappelait Marc Semo, le déni par rapport au premier échec du tout début de son mandat, qui a été extrêmement frappant, le retrait fracassant d'Afghanistan, où l'administration voulait soigneusement éviter finalement d'être encore empêtrée donc au Proche et au Moyen-Orient pour finalement, dès 2023, ironie de l'histoire, y retourner et devoir jusqu'à la fin du mandat de Joe Biden rester donc empêtré dans cette région qui poursuit finalement les différentes administrations américaines. Sur ce dossier-là, l'administration Biden a totalement échoué, et ce malgré les grandes compétences de départ et donc les attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'un Joe Biden qui effectivement est un vieux routier de la politique internationale et qui, je l'ai rappelé plusieurs fois, a mené une diplomatie presque interpersonnelle, puisque avec cette grande expérience, il connaît personnellement l'ensemble des grands dirigeants de ce monde. Le point le plus frappant, c'est qu'il a défendu dès son discours d'investiture et la première année de son mandat, finalement, la volonté de privilégier une alliance des démocraties contre les États autoritaires. Et force est de constater qu'à l'heure où nous parlons, donc en janvier 2025, ce sont les États autoritaires qui progressent et qui seront à la tribune de l'investiture, donc de son successeur et de son prédécesseur, Donald Trump. Donc il y a là, effectivement, une grande déception vis-à-vis de la politique étrangère traditionnellement portée par les démocrates et qui aurait pu s'inscrire finalement dans la lignée d'un président qui avait porté les droits humains au sommet ou dans les priorités de son agenda. Je fais référence à Jimmy Carter, donc qui nous a quittés très récemment, et ce parallèle est particulièrement frappant. Ce qui est frappant aussi, c'est ce qu'on a pu reprocher à Obama, l'écart entre les mots, l'affichage, words and deeds, et les faits, entre tout ce que Joe Biden a pu promettre, notamment sur la politique climatique, qui a été empêchée par la multiplication des crises auxquelles il a eu à faire face, en particulier, donc, bien évidemment, l'Ukraine, puis Gaza, qu'il n'a pas véritablement abordé dans le discours du 13 janvier. Quant aux alliances, s'il a renforcé l'Alliance Atlantique, et sans doute pourra-t-on en parler, qu'en est-il, quid des alliances dans l'autre région très importante pour l'hégémonie américaine et pour un bilan de la politique étrangère, à savoir l'Indo-Pacifique.
On va y venir, Maud Kessar, je vais faire tourner la parole. America is back, c'était la promesse de Joe Biden en 2021, Steven Ekovich, à son arrivée au pouvoir. Est-ce que vous partagez cette idée d'un grand écart entre la promesse et puis le bilan actuel? Beaucoup de choses ont été dites, je vous laisse peut-être réagir sur ce qui vous a frappé là dans ce moment de bilan.
En étant historien, je mettrais plutôt les choses dans la longue durée. Je ne crois pas que c'est un tournant nouveau. C'est très difficile pour moi de commenter parce que vous et vos précédents intervenants ont fait un résumé formidable. Qu'est-ce qu'on peut tirer des principes de base un peu plus général? En effet, je crois que Joe Biden, dans la lignée d'une longue durée, s'est mis à commencer à renforcer tout ce monde néolibéral et tout le multilatéralisme qui se joint à ce monde. Donc, la défense de ce monde était dans une grande continuité avec d'autres présidents, je dirais même d'autres présidents depuis la Deuxième Guerre mondiale, même peut-être on peut monter plus loin avec Woodrow Wilson. Défense de ce monde néolibéral contre, en effet, la résurgence des défis des régimes autoritaires. Donc, ce n'est pas à cause de Joe Biden ni d'un autre président précédent des États-Unis ou autres pays qu'on voit cette remontée d'autoritarisme, ce défi de notre monde démocratique libéral. Ça, c'est une chose. Peut-être une deuxième, après toutes ces interventions, un autre principe, je crois que je peux dégager après tous ces résumés, c'est que Joe Biden, sa méthode, c'était la méthode de Jack Sullivan et d'Anthony Blinken, c'était, une certaine retenue prudente, une gestion de escalade ou de déescalade, de ne pas vouloir aller trop loin. Donc, les conséquences sont, en effet, une certaine hésitation en Ukraine ou même par rapport à Israël et dans la région. Donc, je dirais qu'il y a sept principes de base. Avec ces principes de base, on peut, d'une certaine façon, décrire le soubassement dans la longue durée, au moins le soubassement de la politique étrangère de Joe Biden. Prudence, retenue par retranchement.
Et comment vous le jugez, Steven Ekovich? Est-ce que c'est une erreur d'avoir été dans cette méthode-là de la retenue et de la prudence, ou au contraire, c'était plutôt sage? Quel regard vous portez sur là-dessus?
Après coup, on peut toujours critiquer, on peut dire que c'était trop prudent, qu'il n'a pas fait assez. Mais mettons-nous dans le temps. Et en effet, face à un Poutine armé des armes nucléaires, il y avait quand même un tâtonnement, une prudence. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était insuffisant? Bien évidemment. Mais encore une fois, c'est très facile pour nous, les commentateurs, de critiquer si on se met à la place de ceux qui décident, qui ont vraiment le pouvoir de vie et de mort. Là, je crois qu'on peut apporter une vision différente.
Marc Semo.
Oui, mais sur ce point, à l'époque où Joe Biden était encore candidat à sa succession, on avait posé la question à Poutine de savoir s'il préférait Trump ou Biden. Et Poutine avait eu ce mot terrible en disant « je préfère Biden parce qu'il est prévisible ».
Oui, mais ça c'est
Biden est prévisible.
Oui, mais ça c'est une réponse tordue d'un ancien KGB en disant qu'il préférait l'un que l'autre. Mais en disant qu'il préférait Biden, c'est peut-être aussi une façon de miner Biden. Hein. Donc il faut être très prudent sur ce genre de propos.
Oui, mais est-ce que la question n'était pas que Biden est prévisible? Finalement, dans tout ce qu'il a fait.
On peut dire que Biden est beaucoup plus prévisible, comme beaucoup de présidents précédents, Mais Trump n'est pas très prévisible. C'est son image de marque, d'ailleurs.
Oui,
c'est, qui est problématique. Et, mais aussi problématique. C'est problématique pour nous, ses alliés, nous, les alliés des États-Unis. Ça peut être un avantage vis-à-vis des adversaires. Même, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage vis-à-vis des adversaires. Parce que quand vous êtes en face d'un dirigeant erratique, surtout sur le plan économique, hein. Les gros acteurs économiques n'aiment pas l'imprévisibilité. Donc, et dans toute stratégie, toute politique, géopolitique aussi, l'imprévisibilité est dangereuse, à la limite, oui.
Maud Kessar, vous rappeliez tout à l'heure comment, à son arrivée au pouvoir, Joe Biden avait fait de la question de la démocratie une question centrale de sa politique étrangère. Et on se souvient des sommets de la démocratie qu'il organisait. Il y en a eu trois sous sa présidence. C'est ce qui a occasionné aussi tout un tas de débats de savoir qui pouvait être invité à ces sommets. Est-ce que l'Inde, est-ce que les Philippines, est-ce que le Pakistan pouvait y participer? En quoi ça a guider sa politique étrangère, cette vision-là, et peut-être en quoi aussi ça a été risqué pour lui que de marteler, confirmer cette vision du monde très, très binaire, au risque bien de se faire reprocher d'être hypocrite ou de ne pas savoir définir ce qu'est une démocratie, Maud Kessar.
Oui.
Alors, l'idée de pour Biden, qui est un président qui s'inscrit effectivement dans une histoire américaine que l'on connaît bien, et votre invité le rappelait, c'est l'idée, c'est de pouvoir maintenir finalement cet héritage de l'ordre international libéral. Simplement, en 2024 et depuis le début de son mandat, on comprend bien que cet ordre-là, il a été grignoté par les compétiteurs stratégiques russes et chinois. Et en fait, la question pour défendre les démocraties, c'est la question du modèle et du modèle américain. Qui adhère à ce modèle-là? Et est-ce que Biden a su suffisamment le vendre à l'ensemble de ses partenaires et alliés? Or, aujourd'hui, les partenaires et alliés, ils sont à chercher au-delà de notre vision très transatlantique du monde qu'on a ici depuis notre côté de l'Atlantique, en Europe ou à Paris. Joe Biden, quand il a parlé de l'alliance des démocraties contre les États autoritaires, effectivement, il a fallu qu'il ouvre à l'ensemble des pays de manière pragmatique avec lesquels les États-Unis doivent pouvoir nouer des partenariats et faire commerce aussi. Or, tous ces pays, ce qu'on appelle à tort du Sud global, ne sont pas nécessairement des pays qui rentrent dans les canons des critères de nos démocraties occidentales. Donc, il y avait là une nécessité et en même temps des possibles contradictions. Possible quand on discute avec un certain nombre de grands pays africains, quand on discute avec un certain nombre de pays de la zone Asie-Pacifique ou même d'Amérique latine. Et malheureusement, les discussions avec ces pays-là n'ont pas été suivies, et je reviens à ce que je disais en préambule, des faits et de les promesses qui ont été faites n'ont pas donné lieu finalement à des engagements suffisamment concrets, par exemple dans le domaine des infrastructures pour ces pays du Sud global, surtout en Asie-Pacifique. Donc ça amoindrit la crédibilité de la parole démocratique. Ce que les partenaires et alliés les partenaires des États-Unis attendaient, c'était aussi une aide sonnante et trébuchante pour faire face aux défis du 21e siècle, ceux du réchauffement climatique, ceux de la menace chinoise ou russe en fonction de là où on se place. Et force est de constater que Joe Biden n'a pas rempli complètement le cahier des charges. Et donc, ça pose problème. Autre point, quand je parle du modèle, si on veut promouvoir un modèle de démocratie à l'extérieur, il faut être irréprochable sur le plan intérieur. Or, l'Amérique dont Joe Biden a hérité immédiatement après janvier 2021 est une Amérique totalement fracturée, qui était gangrénée par les MAGA et le Trumpisme. Et le résultat, on l'a eu en novembre 2024 et on va le voir là dans les mois qui arrivent avec Trump 2.
Steve Nikovich, vous vouliez réagir?
Oui, je crois que nous, excusez-moi, mais je suis en France depuis 50 ans. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. J'ai fait beaucoup de conférences et de colloques et des ateliers de démocratisation, d'ailleurs, en Afrique. Là, ces derniers propos-là, je crois qu'on est dans un cas de figure classique d'anti-américanisme de fond. On voit, écoutez, les États-Unis et l'Europe, nous sommes dans la même civilisation. Il y a une civilisation européenne, libérale, transatlantique. Nos disputes, ce sont des disputes de famille. Okay. Et pour bien comprendre la politique étrangère des États-Unis depuis sa fondation, les États-Unis, la politique étrangère, ses rapports avec le monde extérieur est régi par deux tensions. Il y a un idéalisme démocratique du départ de ce pays. Mais aussi, parce que c'est obligé pour toute diplomatie, d'être réaliste. Donc on voit toujours cette tension entre un réalisme qui défend des intérêts matériels, hein, propres, d'un pays, et un idéalisme que les Américains, cet idéalisme qui va de pair avec le réalisme. Parce que même en commençant avec Bill Clinton, je crois que d'une certaine façon, ce soutien des démocraties relève d'un propos de la politique étrangère de Bill Clinton et d'Obama. Les États-Unis sont là pour aider les démocraties là où ils peuvent. Est-ce que ça fait du mal à parler de la démocratie, de mener des ateliers de démocratisation dans les pays africains? Je l'ai fait. Les jeunes africains sont à la fois, plutôt les jeunes, hein, ils sont attirés par des valeurs démocratiques, en même temps perplexes, c'est vrai. Il y a une certaine difficulté d'insérer ces valeurs dans leur culture politique, mais quand même, il faut avouer, il y a un certain, encore une fois, une attirance vers les libertés et les valeurs qui nous on possède chez nous, qui détiennent chez nous. Donc,
peut-être rester prudent sur la lecture civilisationnelle qui pourrait induire des généralités, des généralisations, peut-être un peu, surtout de dire.
C'est à chaque pays qui n'est pas démocratique. On est dans un monde de globalisation. Une partie de cette globalisation, c'est une globalisation d'une certaine idée de la politique qui est démocratique. Donc, c'est à chaque pied qui n'est pas démocratique de faire son propre synthèse. Il faut respecter ces synthèses tout en impulsant cette synthèse d'aller un peu plus loin sur le chemin de la démocratie. Pourquoi? Parce que on constate dans l'histoire, dans la plus longue durée, une démocratie libérale n'a jamais fait la guerre contre une autre démocratie libérale. Donc, il y a une conjugation des idéaux et du réalisme. Donc, les Américains, ils sont arrivés à conjuguer les deux tensions de leur politique extérieure, de relation avec le reste du monde depuis la fondation de ce pays. Et je dirais aussi, on partage avec la France ces mêmes valeurs républicaines. Hein. Ce monde libéral était une défense aussi des valeurs républicaines françaises aussi, ainsi que d'autres démocraties dans le monde.
Alors, je laisse le débat ouvert sur cette question des démocraties libérales qui se font pas la guerre entre eux. Il me semble qu'il peut y avoir débat entre penseurs des relations internationales sur la question. Peut-être par rapport à ce que vous dites, Steve Nikovich, est-ce que pour autant cela exempte d'une critique qu'on peut faire légitimement aux États-Unis sur la question de la cohérence ou de la crédibilité sur les valeurs, la défense des valeurs de démocratie, de droits de l'homme? Parce que Joe Biden en a fait des boussoles. Si on prend la question, je l'évoquais en introduction, du soutien au gouvernement Netanyahou à la guerre à Gaza. L'idée ici, c'est pas de juger directement ce soutien, mais de se demander comment il a, de fait, cristallisé des critiques, des opinions publiques, des pays dans le monde entier, une grande partie de l'opinion publique mondiale, qui reproche aux États-Unis de ne pas avoir tenu cet engagement d'avoir un double standard, c'est le mot qui revient beaucoup, et que ça, aujourd'hui, le fait est qu'il part et il laisse un monde très, très, très divisé, et une Amérique décrédibilisée dans une partie du monde.
Les États-Unis, tout président américain critique l'Israël. C'est, très souvent, assez discret. Mais néanmoins, il y a une critique. Il y a une deuxième chose. Le monde entier suppose que les États-Unis peuvent tout simplement frapper sur la table et que Israël va obéir. Même étant donné la puissance américaine et ses relations historiques avec l'Israël, regardez, Joe Biden a élaboré un plan de cesser le feu qui était accepté par l'ONU. Qu'est-ce que ça a fait en Israël? En fin de compte, ce sont les Israéliens, depuis toujours, ce sont les Israéliens qui décident. Les Américains peuvent émettre, même d'une façon très musclée, rarement publique, mais quand même très musclée. Et donc, on surestime la capacité d'un président des États-Unis d'influer sur la prise de décision israélienne.
Marc Semo.
Sur ce sujet, sur Israël, faut voir que finalement, dans l'histoire, ça a été des présidents républicains qui ont tordu le bras d'Israël. Ça l'a été après la guerre de Kippour, seulement à l'époque de Kissinger, pour obliger Israël d'abord à ne pas aller trop loin dans la victoire et ensuite à enclencher un processus qui a mené à la paix. Ça a été aussi la conférence de Madrid, où Bush père a, là aussi, fait de lourdes pressions sur Israël qui ont conduit ensuite...
Et les Palestiniens.
Non, mais là, on parlait d'Israël. Donc, finalement, un président qui veut le faire, y compris en gardant cette conscience des liens historiques entre les États-Unis et Israël, et qu'elle est un allié des États-Unis, ils ont les moyens de se faire entendre. Et est-ce que là-dessus, de la part de Biden, il n'y a pas eu, malgré tout, une certaine faillite?
Je vais laisser répondre Maud Kessar pour faire tourner la parole. Allez-y.
Oui, sur la il faut pas oublier quand même que il y a une opposition forte depuis l'administration Obama. Aussi, on se rappelle des relations interpersonnelles extrêmement mauvaises que Obama avait avec Netanyahu et que Biden avait aussi avec Netanyahu. Donc, ça a été véritablement une difficulté de cette administration sortante de pouvoir manœuvrer avec une alliance historique et un gouvernement en place qui était loin d'être la tasse de thé ou la ligne l'équipe démocrate aurait souhaité soutenir. Donc c'est quand même assez important de le rappeler, mais au-delà de ça, le constat est là et on le rappelait en préambule, c'est la contradiction majeure et sans doute l'échec majeur de cette administration Biden sortante de n'avoir pas réussi à être suffisamment forte pour peut-être cesser aussi l'envoi de matériel à Israël. Et ça faisait partie des points qui ont été particulièrement critiqués, qui ont créé du dissensus aussi avec les alliés traditionnels des États-Unis. Il ne faut pas l'oublier.
Steven Nikovich.
De tout président des États-Unis, pas seulement de Joe Biden. Hein. Écoutez, le rôle historique des États-Unis par rapport à Israël, c'était d'initier des pourparlers, d'ouvrir les débats, d'ouvrir des discussions. Mais encore une fois, en fin de compte, c'est toujours c'est le propre d'un pays souverain. C'était les Israéliens qui ont décidé, oui ou non, de agir efficacement ou non. On peut toujours critiquer les Israéliens aussi, ainsi que les Palestiniens. D'ailleurs, c'était jamais les Palestiniens qui ont ouvert des pourparlers. Jamais. C'était soit les États-Unis ou soit l'Israël. Mais je dirais aussi, finalement, que c'était à chaque fois qu'il y avait une proposition de négociation de paix, ça a été toujours caboté par les Palestiniens. On peut aussi critiquer les Israéliens, mais quand même, on ne peut pas critiquer Biden ici pour ce qu'a fait tous les présidents des États-Unis, étant donné, encore une fois, les rapports de force entre ces deux pays, entre les États-Unis et l'Israël.
En lien avec ce sujet-là, on sait que la Chambre des représentants a adopté très récemment un projet de loi visant à imposer des sanctions à la CPI suite aux mandats qui ont été émis contre les dirigeants israéliens. C'est une loi qui vise à réduire le financement du tribunal et à poursuivre certaines personnes qui aideraient la Cour dans ces investigations. Quel message envoie cette loi et qu'est-ce que au-delà de ce que vous disiez, Steven Nikovich, de d'une impuissance, si j'ai bien compris, américaine à freiner Israël. Cette initiative-là, qui est vraiment du fait des États-Unis, qu'est-ce que ça envoie comme message au monde dans, encore une fois, dans ce contexte de bilan, de promesses qui avaient été faites, du multilatéralisme, de l'autorité morale, etc.
Ben, il me semble, parce que j'ai suivi ce débat au Congrès, que ça relève d'une perception chez les élus américains, et aussi le peuple américain d'une certaine façon, de deux poids et deux mesures quand il s'agit d'Israël. Écoutez, on avait commencé aujourd'hui avec un compte-rendu sur le Soudan. Ce jeune journaliste, il était quasiment tout seul au Soudan. C'est une guerre invisible. Pourquoi il n'y a que quelques poignées de journalistes au Soudan et un nombre massif de journalistes qui se rouvent vers l'Israël? Qui se passe au Gaza, c'est à s'interroger. Donc là encore, on est dans...
Je veux dire qu'on prête trop attention à ce conflit-là.
Voilà. Tout d'un coup, on parle très peu, on en a parlé. Anthony Blinken a employé le mot génocide au Soudan. On parle de génocide au Soudan de nos jours, dans nos publics, dans nos universités. On utilise ce mot génocide d'une façon problématique d'ailleurs, pour ce qui fait Israël à Gaza. Écoutez, nos armées à nous, qu'est-ce qu'on nous a fait à Raqqa? On a détruit les villes à 80%. On a fait fuir la population. On a détruit les hôpitaux. Mais à l'époque, les organisations humanitaires ont dénoncé les terroristes pour avoir se caché dans les hôpitaux. Quand les hôpitaux et les autres lieux protégés par le droit international humanitaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de la guerre, quand Hamas utilise ces lieux protégés, on dénonce l'Israël. Parce qu'on dit que leurs frappes...
Je pense que ces pratiques ont aussi été dénoncées, voilà. Amplement, le fait que...
Bah, évidemment, mais voilà.
Et par les médias, par les ONG.
J'étais ahuri par les chiffres que nous a donné votre journaliste sur le Soudan. Des nombres de déplacés et des morts et des blessés. Et l'utilisation du viol. On est où? Heureusement, vous, aujourd'hui, ici... sur France Culture, vous avez invité un journaliste pour nous rendre compte de ce qui se passe là. Mais c'est très facile de trouver un journaliste pour dénoncer ce qui se passe.
L'un n'empêche pas l'autre.
Évidemment.
Vous écoutez Culture Monde. Stephen Ekovitch et Maud Kessar sont nos invités pour parler de l'héritage laissé par Joe Biden en matière de politique étrangère. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association de dessinateurs Cartooning for Peace. Notre sujet, vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Tu fais le clown!
Mais on a été créés pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé du dessinateur français Hector, qui a imaginé comment Joe Biden allait remplir ses dernières journées au pouvoir. Eh bien, il est occupé à décharger des camions. On le voit transportant, à l'aide de Volodymyr Zelensky, un carton rempli d'obus. « Dépêchons-nous, le voici qui arrive !» chuchote Biden au président ukrainien. En effet, de l'autre côté du camion, voilà Donald Trump qui arrive, sifflotant les mains dans les poches. Les deux alliés encore au pouvoir tentent d'accélérer la cadence. On les voix transpirant et tirant la langue, mais les cartons sont bien lourds et il en reste beaucoup à décharger. Y parviendront-ils à temps? C'est la question que semble poser notre caricaturiste Hector dans ce dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde et sur la page internet de l'émission. Une réaction peut-être, Maud Kessar?
Oui, l'impression que donne ce cartoon, c'est aussi d'une lecture où on voit que ce serait uniquement l'administration Biden qui voudrait aller donc au bout de son projet de soutenir coûte que coûte donc Volodymyr Zelensky et l'Ukraine jusqu'au dernier moment du mandat. Mais on est surpris aussi de voir que sur ce cartoon et dans l'appréciation qu'on a de ce conflit, il n'y a pas la présence des autres acteurs qui Ils sont complètement engagés, les alliés de l'OTAN, les partenaires des États-Unis, et que donc ce serait juste un passage de relais entre Trump et entre Biden et Trump pour ne plus soutenir Zelensky. La question qu'il faut se poser, c'est quid des Européens dans cette petite, non pas big picture, mais image un petit peu réduite, puisque le message, c'est que vont-ils faire pour continuer à soutenir l'Ukraine, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc voilà, c'est la réaction que j'ai, c'est finalement Biden, il n'a pas voulu que délivrer du matériel militaire, il y a toute son équipe aussi qui travaille avec les autres partenaires de l'Alliance, et on ne les voit pas là, donc c'est sans doute le reflet d'une perception de ce qu'est ce conflit, mais qui ne repose pas uniquement sur le grand allié et partenaire américain. C'est toute l'Europe qui est engagée, voilà.
Steven Ekovitch, peut-être une réaction à la caricature, et puis pour prolonger sur, il nous reste quelques minutes sur l'Ukraine.
Oui, évidemment, une précipitation, hein, mais tout en sachant qu'on ne sait pas grand-chose sur ce qui va venir avec le président Trump et l'Ukraine. Tout ce que je peux dire, dans cette incertitude complète, hein, c'est que Trump n'aime pas être perçu comme un perdant. Donc, il faut, je crois, garder ça en arrière-plan pour tenter d'envisager ce qu'il va faire par rapport à l'Ukraine et les Russies. La Russie est en pleine difficulté économique et militaire pour l'instant. Je dirais que, étant donné l'incertitude, la seule certitude est que la personnalité de Trump est cette idée que, en fin de compte, il veut pas être perçu comme quelqu'un qui a fait perdre une guerre contre un autocrate. But my kink is watching you ruin your life. You losing your mind. You take your hair. People say I'm jealous, but my kink is watching you ruin your life.
La chanteuse américaine Chapel Rowan, originaire du Missouri, avec ce titre de 2022, My Kink is Karma. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Maude Kessar, je rappelle, directrice du domaine Europe, Espace Transatlantique et Russie à l'IRSEM, autrice de Stratégie d'influence et guerre de l'information parue aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup Steven Ekovitch, professeur émérite de politique et d'histoire à l'Université américaine de Paris. Merci Marc Semon. On se retrouve la semaine prochaine et je signale la parution ce mois-ci de votre ouvrage La géopolitique en 100 questions chez Talendier. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une série consacrée aux fonctionnaires face au pouvoir politique. Il sera question du rapport de Donald Trump à l'état profond, avec des guillemets, de l'administration palestinienne détestée par la population, de la fabrique de la loyauté chez les fonctionnaires russes et enfin de la bureaucratie européenne face à divers scandales. Dans un instant, les midis de culture.